Nous allons étudier le psaume 36. Vous pouvez le chercher dans vos Bibles, dans votre téléphone portable, ou peu importe le moyen auquel vous accédez à l'Écriture ce matin. Donc nous allons commencer une série de l'été que j'ai appelé les plus grands hits de David. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent David, il a écrit pratiquement la moitié des psaumes présents dans la Bible. Donc il a écrit presque la moitié des hymnes de la Bible. Donc, et je trouve ça intéressant que David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a commencé en tant que berger et personne, en tant que quelqu'un qui avait un travail moindre, un travail que peu de personnes avaient envie de faire, surveiller des brebis. Donc, ce n'est pas un travail incroyablement difficile la plupart du temps. Je pense qu'il y a effectivement des moments où il y a beaucoup de travail, mais bon, la plupart du temps, c'est juste veiller à ce que les brebis ne soient pas en danger. Et donc, il avait beaucoup de temps là, en tant que berger, pour réfléchir sur la vie et plus important, pour louer Dieu. Et donc il prenait sa guitare et chantait et louait et écrire des chansons qui exprimaient son cœur. Donc il avait une manière d'exprimer les choses de la vie, des choses de Dieu qui nous touchent. Donc il était appelé un homme selon le cœur de Dieu et Dieu l'a utilisé pour être le dirigeant et le roi du peuple d'Israël. Et donc les observations qu'il faisait dans ses chants, dans sa musique, sont vraiment profondes. Donc cet été, nous allons essayer d'avoir un aperçu de certaines choses qui ont tellement touché le cœur de Dieu. Donc on va commencer avec le psaume 36. Donc on va lire le psaume en entier. Et une des choses que vous allez remarquer au sujet des psaumes, c'est qu'ils sont différents de nos musiques. Nos musiques sont généralement premier passage, deuxième passage, un refrain. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Il y a peut-être un pont de temps en temps, mais dans les psaumes, c'est vraiment plutôt basé sur une forme poétique. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes rimes. Donc, vous avez une phrase, une répétition légèrement différente, une phrase légèrement différente. Donc, la musique est différente de ce que nous chantons. Mais écoutez attentivement et vous allez voir des choses merveilleuses dans ce psaume. Donc je vais le lire et après on va prier. Psaume 36. La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds, comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà, ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés et ils ne peuvent pas se relever. Père, alors que nous étudions ce psaume, je prie que tu nous parles. Seigneur, que tu nous montres des choses dans ta parole qui vont nous enseigner et qui vont nous parler là où nous avons besoin d'être enseignés. Et là où nous avons besoin d'être confrontés, Seigneur, confronte-nous. Là où nous avons besoin d'être encouragés, encouragement. Là où nous avons besoin d'être remplis, remplis-nous.
Oh
Seigneur, touche-nous à travers ce psaume, dans le nom de Jésus.
Amen.
David commence en regardant à une classe particulière de personnes. Il commence par les méchants. Donc il regarde le monde et il voit qu'il y a des personnes qu'il définit comme méchantes. Et donc là sont les caractéristiques des méchants. Il dit que la première chose, il dit que la parole de révolte du méchant pénètre au fond de son cœur. Alors il utilise le mot qui fait référence à la rébellion et au péché et il le personnifie. Il en fait une chose qui peut parler et qui peut murmurer des choses aux personnes. Et voilà, c'est intéressant, le mot qu'il utilise pour c'est parler. C'est un mot qui est utilisé de manière universelle.
When we read in the Old Testament, declares
pour dire que Dieu parle.
Donc,
quand dans l'Ancien Testament, quand on dit « Dieu déclare », il utilise le verbe « parler ». Donc ça fait référence à Dieu qui parle. Et donc là, il dit qu'il y a ce groupe de personnes pour qui la rébellion, pour qui la rébellion leur parle comme un Dieu. Donc en fait, il explique que la transgression parle comme un Dieu à ces personnes méchantes. Donc le péché et la rébellion est leur idole.
And they listen
et ils l'écoutent.
To the voice
ils écoutent sa voix.
Of that idol.
Ils écoutent la voix de cette idole.
It says that there is no fear
il dit
of God
que ces personnes-là ne craignent pas Dieu. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ne s'inquiètent pas de Dieu. On le voit aujourd'hui. Il y a des personnes qui intellectuellement ont rejeté l'idée de Dieu, que Dieu existe. Je ne crois pas que Dieu existe.
They're evidencing.
Ils montrent qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu, puisque intellectuellement, ils ont vraiment déclaré qu'il n'existe pas. Donc, je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Je n'ai pas besoin de penser à quoi que ce soit que Dieu puisse dire, puisque je ne crois pas en lui. Mais il est plus courant et généralement plus honnête de dire je n'ai pas peur de Dieu parce que quoi, vous savez quoi, je suis plutôt intelligent et je peux faire ce que je veux et très bien m'en sortir. C'est ce que ça dit ici. Il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Je peux faire quelque chose de mal et m'en sortir. Je suis tellement intelligent que Dieu ne le verra pas. C'est intéressant. Il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années aux États-Unis. Les éducateurs et les personnes en général s'intéressent à la confiance en soi des enfants. En grandissant, la confiance en soi n'était pas un thème tellement important. On ne s'inquiétait pas tellement de l'image que les enfants pouvaient avoir d'eux-mêmes. Donc voilà, on s'inscrit à l'équipe de baseball, on s'inscrit à l'équipe de foot, on joue et si notre équipe gagne, on gagne un trophée. Mais alors aujourd'hui, aux États-Unis, on ne veut pas blesser les enfants qui imaginent d'eux-mêmes leur confiance en eux-mêmes. Et alors, même s'ils perdent, on leur donne un trophée. Et comme ça, ils ne peuvent pas se sentir mal. Et on est sûr que, ils ne sont pas vexés. Quoi. Mais je suis désolée, la vie, ce n'est pas ça la vie. Et il y a une étude qui parle de ça. Donc aux États-Unis, je ne sais pas si c'est valable ici aussi, si c'est vrai autour du monde, mais les gens sont des gens tout autour du monde. Vous savez quel groupe de personnes a le meilleur score en matière de confiance en soi ou de bonne image de soi? Les gens qui sont en prison. Les prisonniers. Est-ce que c'est pas bizarre?
Why?
Pourquoi?
Because they think they're so smart.
Parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient si intelligents qu'ils pouvaient s'en sortir. J'ai imaginé le crime parfait. Personne ne va m'avoir. Ou alors la seule raison pour laquelle ils ont réussi à m'attraper, c'est parce qu'ils ont triché. Okay? Donc on a cette fierté, cet orgueil, cette arrogance qui nous dit on peut pécher et s'en sortir. Dieu ne nous rattrapera pas. Il
n'y
aura pas de conséquences à notre rébellion envers Dieu, contre Dieu. On se flatte nous-mêmes. On pense qu'on peut s'en sortir. Et donc David regarde le monde et il voit qu'il y a des personnes qui se flattent et qui pensent qu'elles peuvent s'en sortir avec leur péché. Qu'ils sont tellement pleins d'eux-mêmes qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir. Et même en tant que chrétien, on peut avoir cette attitude. Auguste disait : nombreux sont ceux qui sont malhonnêtes dans la manière dont ils regardent leur péché. Donc ils ne cherchent pas vraiment à le trouver ou à le haïr. Ok, c'est bon, je suis suffisamment bon et ils veulent avoir cet espace dans leur vie qui est totalement séparé de Dieu, là où Dieu ne va jamais. Donc ils sont malhonnêtes dans leur recherche. Et quand leurs péchés sont mis en lumière, ils se défendent. Ah, mais tout le monde fait ça. C'est pas si mal. Tout le monde le fait. Eh bien, oui. Mais ce n'est pas pour autant que c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Et les Écritures nous disent que nous péchons tous, mais ça ne veut pas dire que le péché est bon. Ça veut juste dire que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Alors, est-ce que nous permettons au Seigneur de chercher nos cœurs? David, dans un autre psaume, le psaume 131, dit ceci.
Search me, O God, and know my heart.
Ah non, 139, pardon.
And know my thoughts. And see if there is any grievous way in me.
Seigneur, sonde mon cœur.
And lead me in the way everlasting. That's a prayer that the wicked does not want to pray.
David demande à Dieu de chercher son cœur et de lui montrer s'il y a quelque chose qui est mauvais dans son cœur. Et ce n'est pas une prière que quelqu'un qui veut s'éloigner de son péché, qui veut s'en sortir, prie. Là, David est vraiment allongé sur son lit et voilà, demande à Dieu, dis-moi, regarde mon cœur et dis-moi s'il y a quelque chose. Là où David, ou le chrétien, fait ça, le méchant, lui, se couche sur son lit et prépare le mal. Il médite l'injustice. Il passe ses nuits à rêver de choses mauvaises, de manières dont il peut se venger des gens. Où il peut devenir riche. Il passe ses nuits à comploter, à des mensonges qu'il peut dire. Et comment est-ce qu'il peut faire le mal et s'en sortir? Donc il est vraiment plein de péchés. Et donc c'est le résultat de l'abondance de son cœur. Et donc quand il nourrit son cœur de ça, et quand il ouvre la bouche, ce sont ces choses-là qui sortent de son cœur.
David begins this psalm.
Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Donc il commence son psaume en parlant des méchants. Et ensuite il change.
And he contrasts that with the Lord. And you could picture David sitting on a hillside looking out over creation.
Et donc là il regarde maintenant à Dieu et à la création. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Donc maintenant, on doit vraiment avoir conscience que c'est du langage poétique. Donc on doit vraiment le comprendre de manière poétique et pas réelle. Donc ne vous demandez pas. Ne commencez pas à vous dire, ok, donc son amour, il va jusqu'aux cieux, mais sa fidélité va que jusqu'aux nuages, donc il y a plus d'amour que de fidélité. Non, non, non. Il ne faut pas les prendre de manière trop littérale. Il faut vraiment le voir de manière poétique. Il dit, votre ton amour est plus grand que la distance qui nous éloigne des étoiles. Donc ta fidélité nous recouvre. Ta justice est comme les montagnes. Elle ne peut pas bouger. Elle est solide. On peut vraiment construire sur elle. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Et tu secours les hommes et les bêtes. Et donc le mot auquel il fait référence, c'est vraiment un soin éternel. Un soin qui...
Voilà.
Il prend soin d'eux, il pourvoit à leurs besoins, il les protège. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Pouvez-vous vraiment sentir la différence entre le cœur de David et celui des méchants? Regardez ce contraste, les choses auxquelles David pense comparées aux pensées du méchant. Au verset 8, verset 9, il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Je rigole un peu parce que
ESV translates this.
À la manière dont ma traduction le dit. Parce que le mot fête dans la version anglaise est le mot que. Ça veut dire boire en fait.
They drink on the abundance of your house and you give them drink from your rivers of delight.
Donc c'est comme si le verbe boire était répété deux fois en fait dans ce verset en anglais. Et le mot abondance, comment est-ce que je pourrais l'expliquer?
To the point of inebriation, you drink.
Ah, c'est boire au point de.
Being drunk.
C'est boire au point d'être sous, en fait. C'est littéralement ce que ça veut dire. c'est boire jusqu'au point d'être vraiment complètement rempli de ce dont vous buvez. Donc c'est assez facile maintenant pour nous de penser que c'est ok d'être complètement sous. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Cette version dit que si vous buvez de cette abondance, c'est que vous êtes vraiment rempli. Vous êtes rempli, vous êtes envahi. C'est une manière merveilleuse d'être rempli par l'abondance de Dieu, de sa maison. Vous buvez de la rivière des délices les plus merveilleux.
Donc
c'est la chose la plus fine et la plus belle. Enfin, vous buvez vraiment de la meilleure chose. Donc David insiste, enfin, il pointe l'expérience spirituelle que Dieu nous donne. Donc celle dont nous pouvons boire, que nous pouvons goûter, voir et connaître, que c'est bon, que ça donne la vie, que ça nous transforme dans quelque chose de nouveau. Donc c'est une expérience spirituelle. Ce sont des expériences spirituelles qui sont difficiles à décrire. Elles font partie de la vie du croyant. Dans 2 Corinthiens, Paul parle de
2 Corinthiens
chapitre 12.
Paul au
verset 2, je connais un homme en Christ qui, donc il parle de lui, hein, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend.
Paul
dit, j'ai eu cette expérience spirituelle, et c'était tellement profond que je ne peux même pas en parler. C'était vraiment une partie de sa vie spirituelle. Et quand on lui demande, comment est-ce qu'on peut aller vraiment si loin pour Dieu, et c'est qu'en fait, une part de la réponse, c'est qu'il buvait vraiment de ses délices. Il festoyait vraiment de l'abondance de la maison de Dieu. D.L. Moody
tells of D.L. Moody, the power of God fell upon him.
Le pouvoir de Dieu est venu sur lui alors qu'il marchait dans la rue, et il s'est dépêché d'aller chez son ami et demander s'il pouvait avoir une pièce où il était seul, et il est resté dans cette pièce pendant des heures, et le Saint-Esprit est venu sur lui, remplissant son âme d'une telle joie qu'il a finalement dû demander à Dieu d'arrêter, de retirer sa main, parce que sinon je vais mourir sur place de cette telle immense joie que tu es en train de verser sur moi. Donc cette joie est en train de venir sur moi dans ma vie, et je peux plus la supporter. C'est beaucoup trop, ça me submerge.
Donc
il y a des expériences spirituelles que Dieu veut que nous ayons. Il veut que nous connaissions, pas seulement en théorie, mais que nous ayons des expériences spirituelles avec lui. On pourrait parler d'autres personnes qui ont eu des expériences semblables à celle-ci. Des pages et des pages et des pages de l'histoire de l'Église qui ont rencontré, enfin, l'histoire d'Église où des personnes ont rencontré Dieu de manière tellement puissante, mais en même temps, je dois dire que une des manières de rencontrer Dieu est à travers les pages de votre Bible. C'est normal, c'est la la voie normale, entre guillemets, pour rencontrer Dieu, c'est à travers les pages de votre Bible.
Just a few verses from Psalm 119, you can see there the
Donc voici quelques versets du psaume 119.
I love opening it up.
Je prends plaisir à ta parole.
Paul and I were talking before the service. Paul was talking about the fact that he just
Paul me disait juste avant le service qu'il aime passer du temps dans la parole. Parfois, ça demande un peu de discipline d'ouvrir notre Bible, mais une fois qu'on est dedans, il y a un plaisir de rencontrer Dieu là dans les pages de sa parole. Et l'un des signes à quoi on reconnaît un chrétien saint, en bonne santé spirituelle, c'est qu'il passe du temps dans la parole. J'ai comparé l'expérience qu'a eu Moody et le plaisir de passer du temps dans la parole, et je vais comparer ça avec le mariage, le fait d'être marié avec Janet. Je prends tellement plaisir à être marié avec Janet chaque jour. C'est bien, c'est bon. Mais quand je regarde en arrière les années de notre mariage, il y a eu des moments vraiment spéciaux. Ils ont été fantastiques.
Every day is good.
Chaque jour est bon.
But there were some high points.
Mais il y a eu des moments, encore meilleurs.
In God's word.
Donc chaque jour, être chaque jour dans la parole de Dieu, c'est bon.
It's nourishing.
Ça nous nourrit. On y prend plaisir.
There are some high points.
Mais il y a des points encore meilleurs.
Different analogy.
Je vais faire une autre comparaison, une autre analogie.
Food.
La nourriture.
Those high spiritual experiences,
ces expériences spirituelles puissantes sont comme de la crème brûlée.
Okay? I love crème brûlée.
J'adore la crème brûlée.
But tell you what, I can't live
Mais je vais vous dire,
crème brûlée.
Je ne peux pas.
You're like, yeah, I'd like to try.
Je peux pas laisser une crème brûlée, ouais.
But the reality is,
mais la réalité, c'est que.
No, that doesn't make up a healthy diet.
Mais c'est pas sain.
Healthy diet has things like vegetables.
La nourriture saine, c'est par exemple les légumes.
Which, if you don't eat a whole lot of crème brûlée, those vegetables taste awfully good.
Donc si vous ne mangez pas de crème brûlée, les légumes ont vraiment très très bon goût.
When I really cut back on eating desserts, I was surprised.
Il y a quelques années, j'ai complètement arrêté de manger des desserts. Et là, j'ai été incroyablement surpris de me rendre compte à quel point les carottes étaient sucrées. C'est vraiment très bon. Donc la parole de Dieu, c'est pareil. C'est vraiment une nourriture pour nos âmes. Et de temps en temps, Dieu nous donne des crèmes brûlées. De temps en temps, il nous donne des crèmes brûlées. Et il nous les donne au bon moment. Il pourvoit au bon moment. Et Dieu est vraiment un Dieu sage. Il est vraiment sage. Certains d'entre nous doivent vraiment entendre cet aspect de Dieu. Nous vivons sur la parole de Dieu.
Via the daily eating of the word of God.
La parole de Dieu, c'est notre nourriture quotidienne. C'est là que notre nourriture spirituelle vient. Dieu pourvoit la crème brûlée de temps en temps. Mais ne tombez pas dans le piège de courir après la crème brûlée. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous deveniez le petit enfant qui ne veut manger que des desserts. Est-ce que c'est une bonne image? Vous ne voulez pas être comme ça. Si vous le faites à votre manière, vous ne serez pas sain, vous serez gros, en plus spirituellement gros, gras. En mauvaise santé spirituelle. Si c'est Dieu qui le fait à sa manière, vous allez prendre encore plus de plaisir au dessert et vous serez physiquement fort et sain. Est-ce que vous comprenez? Donc on veut vraiment garder ça à l'esprit en tant qu'Église, que nous voulons pourvoir, nous voulons donner de la bonne et saine nourriture spirituelle aux gens. On veut aussi des rencontres puissantes avec Dieu. On veut aussi qu'ils aient de la crème brûlée de temps en temps. On croit en la crème brûlée. Dieu, à des moments, touche les gens de manière puissante et c'est chouette quand ça arrive. Mais en même temps, on veut aussi être ancré dans la parole de Dieu parce que c'est l'endroit que Dieu a prévu pour que nous soyons nourris à long terme.
So David has these two images.
Donc David a ces deux images en tête, l'image du méchant, des méchants qui écoutent la révolte, la rébellion, au péché, comme une idole qui vraiment murmure à leur cœur et ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec la rébellion, avec le péché, qu'ils peuvent vraiment s'en sortir. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, que leurs vies sont remplies du péché. Et puis ensuite, il regarde à Dieu, qui ne connaît pas de limites, qui déverse cette rivière de vie à laquelle nous pouvons boire, où nous pouvons être satisfaits. Et on veut le connaître profondément. Puis ensuite, il loue. Non, il prie, pardon.
Continue your steadfast love. To those who know you.
Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.
I'll stop right there for a minute.
Je vais déjà m'arrêter là pour une minute.
I'll stop right there and I want us to think about this.
Et je veux qu'on y réfléchisse juste une minute.
He started by saying, Lord,
il commence en disant, Seigneur, ta bonté va jusqu'aux cieux, s'étend jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nuages.
But then he prays.
Et ensuite, il prie.
Étends
ta bonté. Mais si sa bonté va jusqu'aux cieux, pourquoi est-ce que David prie pour sa bonté? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi David prie que Dieu continue d'être Dieu? Est-ce que c'est pas bizarre?
This sounds like a basic assumption that you shouldn't have to pray about.
Ça ressemble à quelque chose d'évident pour lequel on n'aurait pas besoin de prier.
Unless part of the secret of prayer.
Sauf si une part du secret de la prière est de découvrir qui Dieu est. Ce que Dieu veut et lui demander ces choses-là. En priant, Dieu continue d'étendre ta bonté. David prépare son cœur à recevoir encore plus de la bonté de Dieu, mais aussi il se met dans un endroit où il se prépare à mieux voir aussi cette bonté de Dieu, à la comprendre. Et peut-être que Dieu a créé la manière de la prière de travailler d'une certaine manière que, peut-être que Dieu a créé la prière de telle manière à ce que nous lui demandions ces choses-là pour que ces choses se passent comme dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pour que ces choses arrivent. Et ici, c'est étends ta bonté. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ces choses merveilleuses dans ta parole.
Lord, cause me to delight in your word.
Donne-moi de prendre plaisir à ta parole. Ta parole me semble froide. Ouvre mon cœur pour que je puisse boire de ces flots d'eau de vie, que je puisse voir les trésors de ta parole. Et Dieu prend plaisir à répondre à ce genre de prière. Donc il demande à Dieu de continuer de faire l'expérience de cette cascade de sa présence et de comprendre sa bonté, sa miséricorde et sa grâce. Continue cette action dans ma vie. Continue ces choses-là. Entretiens ces choses-là. Et puis ensuite, il se souvient du méchant.
He remembers the wicked, and he prays, let not the foot of arrogance
que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir.
Interpreters go back and forth.
Les interprètes se battent un peu sur la manière dont on doit comprendre ce passage. Est-ce qu'il fait référence à de vraies personnes? Ou est-ce que les arrogants, est-ce que l'arrogance et la méchanceté sont personnifiées? Est-ce qu'il dit, ne laisse pas les orgueilleux marcher sur moi ou me détourner? Ou est-ce que c'est personnifié? Est-ce qu'il dit, ne laisse pas la fierté et l'arrogance remporter la victoire sur ma vie? Et parce que si c'est le cas, je vais me retrouver la nuit étendue sur mon lit et à méditer le mal. Donc ne laisse pas l'arrogance me remplir et m'éloigner de toi, parce que la mauvaise personne, les méchants, ils tombent déjà et ils ne pourront pas se relever, ils seront détruits. Donc est-ce qu'il parle de personnes qui pourraient lui faire du mal, ou est-ce qu'il parle de ses caractéristiques qui pourraient le détourner de Dieu? Personnellement, je pars plutôt sur la deuxième. Je prie pour moi-même plutôt la deuxième version, parce que j'ai peur de la fierté dans mon propre cœur. Et je pense peut-être trop souvent que je vais pouvoir m'en sortir avec mon péché. Trop souvent, je pense que je peux simplement m'en sortir.
Where are you at?
Et vous?
Where are you at?
Où en êtes-vous?
When you lie at bed at night,
quand vous vous êtes allongé sur votre lit la nuit, à quoi vous pensez?
Steadfast love of the Lord,
la bonté de Dieu,
his faithfulness,
sa fidélité,
the river of his delights that you've
la rivière de ses délices dans laquelle vous buvez, sa présence, la présence du Seigneur.
Are you thinking,
où est-ce que vous pensez au mal?
Thoughts of greed,
l'avarice,
thoughts of getting even angry,
des pensées où vous voulez vous venger. Est-ce que vous êtes rempli d'amertume?
Lust,
vous êtes perdu.
What is it that's filling your heart?
Qu'est-ce qui remplit vos cœurs quand vous êtes allongé dans votre lit la nuit?
If it is sin,
si c'est le péché,
know that you won't get away with it.
Sachez que vous ne vous en sortirez pas avec lui. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous devez arriver à la repentance. Vous devez vous repentir. Abandonner votre péché. Appelez-le le mal. Reconnaissez que c'est mauvais. Venez à la croix
où
vous pouvez recevoir le pardon. Parce que Jésus est mort, il a payé le prix de votre péché. Recevez le pardon. Soyez purifiés et commencez à boire de la rivière de la vie. Commencez à boire de ce qui va vous soutenir, de ce qui va vous nourrir plutôt que du péché qui va vous détruire.
Let's pray.
Prions.
Father,
Père,
Lord, I want to pray for several different types.
Seigneur, je veux prier pour différentes personnes, différents types de personnes.
Lord, there are those
here. Seigneur, il y a ceux qui sont ici ce matin.
That do not know you.
Qui ne te connaissent pas.
And this morning they are.
Et ce matin, ils sont.
To hell.
Ils se dirigent vers l'enfer. Ils ne te craignent pas.
They don't think that.
Ils ne pensent pas que.
They have to worry about your opinion.
Qu'ils doivent s'inquiéter de ce que tu penses d'eux.
Lord, I pray that you.
Seigneur, je prie que tu te révèles à eux tel que tu es vraiment. Que tu les convainques de leurs crimes, de leurs péchés, que tu leur montres la gloire de la croix, pour qu'ils parviennent au salut. Seigneur, fais ça dans leur vie, s'il te plaît.
Lord, there's another group of people here.
Seigneur, il y a un autre groupe de personnes ici ce matin.
Who in many ways
qui de différentes manières
mock the gospel.
Marque ouvertement l'évangile.
Lord, they openly mock it.
Seigneur, qui se moquent, pardon.
By believing that because they prayed a prayer at some point.
Ils se moquent de la bonne nouvelle parce qu'ils pensent qu'à un moment donné, ils ont prié une prière à un moment donné et que maintenant ils peuvent librement pécher.
Lord, their attitude shows that
leur attitude montre qu'ils ne sont pas véritablement nés de nouveau par ton esprit.
Lord, show them.
Seigneur, montre-leur leurs conditions, montre-leur là où ils en sont, révèle-leur là où ils en sont.
Show them their condition, Lord. They are worse off than the first group.
Ils sont dans un état bien plus grave que le premier groupe.
Lord, there's a third group here.
Seigneur, il y a un troisième groupe ici.
Lovers of you. Lovers of you.
Ceux qui t'aiment.
Who over the past days or
qui ces derniers jours ou ces dernières semaines
have allowed sin to creep into their lives.
Ont permis au péché de venir dans leur vie.
Lord, they've stopped drinking from.
Ils ont arrêté de boire.
The well.
Au puits.
And they've allowed sin to,
et ils ont permis au péché de venir dans leur vie. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint leur parle.
Convict them of their sin.
Les convainque de leur péché.
Show them how evil.
Montre-leur à quel point c'est mauvais.
How vile it is.
À quel point c'est vil.
And may they give it up.
Et qu'ils puissent l'abandonner.
May they give up the anger,
qu'ils puissent abandonner la colère,
the lust,
le manque de pardon,
whatever it is that
le désir,
seep into their life.
Quoi que ce soit qu'ils aient permis,
may they come to you and find
puissent-ils venir à toi et trouver le pardon,
and grace,
la grâce
and mercy.
Et la miséricorde.
Lord, for
Seigneur,
the fourth group of people
pour le quatrième groupe de personnes
who are
qui
dealing with the sin in their life, who are walking with you, Lord, I pray that
voilà au péché dans la vie qui marche avec toi. Je prie que tu les emmènes plus loin dans ta parole, plus profondément, plus profondément dans cette relation avec toi, dans cette communion avec toi, pour qu'ils puissent boire avec abondance.
Lord, thank you.
Le fait de ta maison.
Thank you for David.
Merci, merci pour David, Seigneur. Merci pour les psaumes.
Thank you that.
Merci.
That he drank from.
Merci parce qu'il buvait de la rivière des délices.
He feasted on the abundance of your household.
Qu'il a profité de l'abondance de ta maison.
He wrote.
Et merci parce qu'il a écrit.
A beautiful song.
Une chanson merveilleuse, un psaume merveilleux, pour que nous puissions connaître et comprendre ta volonté.
In Jesus' name.
Dans le nom de Jésus.
Amen.
Amen.